très heureux de, pour cette deuxième journée des fractions d'entamer l'après-midi autour de Marie Cosnet, et donc particulièrement de ce tout récent livre qui s'appelle If, aux éditions de l'Ogre. Je le montre, bon, parce qu'il faut les montrer les livres, mais peut-être qu'il faut montrer encore plus particulièrement certains livres parfois, parce que le travail des éditions de l'Ogre est remarquable éditorialement parlant, puis aussi graphiquement, tout bêtement. Je pense que le livre construit un objet assez intrigant et très en écho avec son intérieur, avec ce, et cette carte, et en sous-impression ce IF, qui donc est à la fois un nom de lieu, celui du château d'If, au large de Marseille. Et puis, même si ce n'est pas écrit dans le livre, je me suis fait l'hypothèse de l'hypothétique aussi. C'est-à-dire que c'est aussi, vous êtes traductrice, par ailleurs, Marie, c'est aussi l'hypothèse en anglais, if. Puisque le livre, vous allez l'entendre, est une forme d'enquête biographique et pas seulement, historique et pas seulement, littéraire et pas seulement, poétique et fictionnelle. Vous allez me dire, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais effectivement, c'est un objet textuel qui est une enquête, mais qui, de l'enquête, fait en même temps un enjeu pleinement esthétique, je pense, et poétique. Marie Cosnet, je ne l'ai pas encore présentée. Donc, bienvenue Marie, et bonjour. Vous publiez donc aux éditions de l'Ogre depuis plusieurs années maintenant. C'est un de vos éditeurs, c'est devenu votre éditeur quasiment attitré, même si vous avez toujours parsemé les catalogues de divers éditeurs, de Kidam à Publinet, en passant par, par Laurence Tepper. Vous avez publié une vingtaine de livres, fiction, poésie, chez Chêne également. Et également, je le disais, puisque vous êtes professeur de lettres classiques par ailleurs, dans le Pays Basque, d'où vous nous arrivez, et également une traduction, retraduction donc, des Métamorphoses d'Ovide parues chez l'Ogre il y a 2 ans et qui a fait date. C'est cette histoire de traduction qui m'a fait entrevoir Yves sous cet angle-là aussi, l'hypothèse de l'hypothèse. Je ne voudrais pas en dire trop parce que je voudrais vous permettre d'entrer par le texte et ensuite, de là, on s'essaye à déplier autrement ce qui se déplie de façon constellée dans ce livre. Donc Marie, si vous voulez bien nous faire entrer dans le livre par un peu de lecture, puisque vous avez accepté de vous prêter à cet exercice. Je vous en remercie grandement.
Pour entrer dans... On m'entend bien, oui, parce que moi, je n'entends pas vraiment, mais on entend. Bon. Pour entrer dans le livre et pour simplifier l'accès et la lecture, je commence par la fin. Donc, c'est vraiment... Mais par la fin, parce que c'est un passage autour des archives et autour de l'enquête. J'ai une enquête en cours. Elle concerne un homme... Personnage sans histoire de l'histoire, ou personnage d'histoire immense qui en a une, lui, petite. Tu crois qu'il ne choisit rien, mais c'est faux. Il choisit de rouler dans le moule que présentent les dates, les décrets, les Français et la guerre. J'ai dit, tu as vu ma patiente collecte 2-3 ans à tourner autour d'un homme prétexte, de ses enfants et de sa femme, autour d'un nom, coupé géographiquement, coupé généalogiquement. Personne avant toi, coupé phonétiquement, 3 fois coupé. Héros dans mon histoire à défaut de l'être dans la sienne. Dire que les archives ont disparu, le toit a failli s'écrouler. Ce n'est même pas lié à ce qu'il fut ou fit. Jamais un Belaouel ne fait ni ne fit s'écrouler Fontainebleau. Dire que ni Nantes ni Aix n'ont les dossiers et dire que Pierre Fitte en possède un tronqué. Qu'on a mis une année à obtenir, dire que le dossier devait être prêt le jour dit, c'est écrit. Lisez donc le courrier décidé de l'archiviste. Le dossier vous attendra le A, suive date et heure. Il n'y est pas. Il y a peu de risques pour que cela arrive et cela arrive. On fait la liste des choses qui ne peuvent pas arriver et qui arrivent. Le dossier n'y est pas. C'est comme le toit et les ruines de Fontainebleau. On ne va quand même pas croire qu'un Belaouel retarde un dossier pour raison de secret d'État. Dire que le corps au cimetière a disparu ou s'est déplacé. à moins que, c'est plus raisonnable de penser ainsi, à moins que je ne sache chercher, ne sache rien chercher, ni dossier, ni moindre nom, ni moindre corps, ni tombe. Peut-être je fais beaucoup d'histoires pour cacher le vide de l'histoire dans l'histoire de Belawel. On vit un temps où un pays écrasé depuis 130 ans par une colonie de peuplement s'en affranchit. Cas unique dans l'histoire, en ce temps unique, notre héros ne songe qu'à passer la mer pour voler les allocations des enfants et compter ses maîtresses. Pendant ce temps, des bataillons humbles et valeureux rêvent de bâtir une Algérie libre et démocratique. Et même si parfois les rêves s'écroulent, comme les toits de Fontainebleau, où sont à recommencer, les hommes suivent des rêves, ce qui est quand même autre chose que de suivre décrets et français, femmes, 5 enfants, 49 maîtresses. Je suis sur le point de dire à l'archiviste, finalement, je crois qu'il n'y aura rien dans le dossier. Je ne vais pas attendre. C'est alors que le dossier arrive avec un retard aussi assuré que l'était le ton du premier archiviste, celui qui fixait le jour et l'heure.
Merci Marie. Alors là, donc, on est effectivement à la fin du livre et ça dit quelque chose de ce statut d'enquêtrice dans laquelle l'écrivaine que vous êtes se met dans ce livre-là. L'enquête est à la fois, comme je le disais, objet poétique et puis objet concret. Il y a une enquête, il y a une vie qui nous est racontée de façon diffractée. A-t-on l'impression, à la mesure de l'avancée de vos travaux, justement, et dans le dédale administratif et historique ? Et j'aimerais commencer par cet exercice un peu difficile et un peu, semble-t-il, en contrepoint de la construction du livre, mais justement, pour s'y repérer un peu, de quelle vie s'agit-il, ce Mohamed Belawel, dont il a été question ? Est-ce que vous pourriez retracer, à l'inverse du livre, de façon linéaire, le plus linéaire possible, la chronologie de sa vie ? Chronologie et géographie de sa vie. Et
du coup, tout le livre dit que j'arrive pas à faire ça. Donc je le fais là, j'essaie de le faire ici. Mais en fait, le livre est l'histoire du fait que je n'arrive pas à retracer linéairement sa vie, son histoire, et ni à la situer même dans l'histoire. Juste un mot sur le passage lu juste avant. C'est vraiment le rapport aux archives, parce que le fait de, oui, c'est un homme qui a un dossier aux archives de Pierre Fitte et que je suis allée chercher, comme je le raconte là, comme vous avez entendu. Je suis allée chercher ce dossier en vrai. Il m'attendait en vrai. Et en vrai, j'ai cru qu'il n'allait pas arriver, que ça allait échouer au dernier moment, que même ce qui existe et ce qu'on peut tenir et ce qu'on peut toucher de l'histoire de quelqu'un, même là, pourquoi ? Parce que peut-être parce que je ne sais pas faire, ou peut-être parce que c'est lui, ou peut-être parce que c'est trop énorme, je ne vais pas y arriver. C'est ça, en fait. Et, bon, en réalité, les archives, ce n'est pas tant que ça. C'est juste, en effet, on ne sait rien de plus, même quand on les a, et même quand on les a au complet, même quand elles sont complètes, on ne sait rien de plus. En fait, c'est, après, je ne savais pas grand-chose de plus. Bon, alors, pour faire ce que tu dis, c'est-à-dire de raconter le parcours linéaire, ça va être à la fois hyper banal. Donc, Mohamed Belawel, je dis que ce que je sais, puisque je ne sais rien. Moi, ce que je sais, Mohamed Belawel, il naît en 1920 à Bonn, qui devient Annaba en 62. Voilà, ça, je sais ça. Ensuite, qu'est-ce que je sais ? Je sais, il naît Mohamed Belawel. Je sais qu'on ne sait rien sur son père. Et on sait que peut-être, mais peut-être, sa mère s'appelle Fiorentino, donc un nom de famille italien. Voilà. Et encore ça, on le sait peut-être. C'est pas du tout une certitude. Ensuite, qu'est-ce que je sais ? Je sais que je ne sais plus les dates, mais enfin, vers avant les années 50, il épouse une femme qui s'appelle Noémie Sandra et qui, elle, est née à Béjaïa, Bougie, en Algérie, et qui, elle, est d'une famille pied noir, qui est déjà mariée. Voilà, ça, je sais. Elle est déjà mariée. Elle a 3 enfants, d'un premier, ou 4 ou 5, je ne sais pas, d'un premier mari, qui s'appelle Vela, et qui est un Marseillais qui vit à Alger. à Béjaïa. Bon. Je sais que cet homme-là, Mohamed Belaouel, elle va le rencontrer à Béjaïa, et qu'ils vont partir se marier à Alger, et qu'elle va perdre la garde de ses premiers enfants. Qu'elle ne les retrouvera que beaucoup plus tard, après 62, en France. Voilà, ça, je le sais. Qu'est-ce que je sais d'autre ? Je sais qu'en 62, tous, mais séparément, les uns sur le bateau, les Vélas, etc., et lui, Mohamed Belaouel, je ne sais pas comment, ils sont arrivés à Tours, à Digne, puis à Tours, puis à Bayonne. C'est là que leur histoire me fait signe à un moment donné, beaucoup plus tard. Voilà, ça, je sais qu'en 62, ils sont arrivés. Et ce que je sais aussi, c'est qu'en... alors, les dates, mais c'est horrible. En 40, il devient policier à Alger, Mohamed Belaouel. Et sans doute, en 44, il obtient le statut... de droit commun. Il sort du statut indigène, en fait. Voilà, tout, c'est, voilà, si je sais quelque chose, c'est ça. Mais bon.
Et il devient... alors, voilà. Et c'est là où, peut-être, est-ce que moi, je me trompe ? Il devient policier en France, il change de nom.
Mais non, pas en France, en Algérie.
En Algérie, mais en France, ensuite, il est agent gardien de la paix.
Oui, il continue à faire le même métier. À savoir, il est, je ne sais pas comment on dit, il est sergent ou quelque chose comme ça. Ben voilà. Et ben, il continue et voilà, il fait le gardien de la paix à Tours et il fait le gardien de la paix dans les villes où il sera après.
Et alors, pareil, son style de nom.
Après, je sais plein d'autres choses. Hein.
Oui.
Ça, c'est ce que je sais au début.
C'est ça. Ensuite, il change de nom. Il s'appelle Jean-Pierre.
Alors, après, ce que je sais aussi, c'est que à un moment donné, oui, parce que ce que je sais, ça, le fait qu'il s'appelle Mohamed Belaouel, je le sais à la fin de l'enquête. Je le sais pas au début de l'enquête. Quand moi, je connais, j'ai pas connu cet homme, il est mort avant que je puisse le connaître. Mais ce que je sais de cet homme, c'est pas qu'il s'appelle Belaouel, c'est qu'il s'appelle Bouel. Et donc, c'est donc l'enquête. C'est pour ça que c'est difficile de déplier chronologiquement ce que je sais, parce que c'est l'enquête qui me fait prendre conscience que, en fait, il est né Mohamed Belaouel, parce que en France, en tout cas, dans les années à partir de 64, il s'appelle Jean Bouel. Voilà. Du coup, ce que je sais aussi, c'est que forcément, il a servi la France et il a été assimilé, en tout cas, peut-être pas techniquement, mais assimilé harki. Voilà. Ça, c'est pour...
Merci. Merci de vous y être prêté, même si c'était justement un contrepoint par rapport à la construction du livre. Et du coup, à un moment, vous avez tiré un fil. Vous dites, je le découvre ailleurs, plus loin, à Bayonne. Est-ce que c'est une photo, me semble-t-il, qui est un des points de départ de l'idée de ce livre et de l'idée de tisser cette vie. Donc, question. Parce que dans le livre et dans ce qui est écrit, l'hypothèse de départ semble être la vision du château d'If et le rapport que vous faites avec Monte Cristo, notamment et aux lectures d'enfance. Donc, ma deuxième question, linéaire également, c'est est-ce que vous pourriez reconstituer, à la mesure où la mémoire le permet, le cheminement du processus créatif, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ça démarre, cette affaire, que ce qui est une intuition devient une idée, devient un travail, devient un chantier, et se prolonge notamment à la Marelle, enfin, si l'on croit ce qui est écrit, entre Marseille, Bayonne et Alger. Est-ce que le point de départ, c'est la photo ? Est-ce que le point de départ, c'est le château d'If ? Est-ce que, voilà... Comment tout ça, ça se met en place selon votre mémoire maintenant ?
Ouais, c'est difficile, hein, parce que le point de départ, c'est un certain rapport à l'Algérie, mais un certain et incertain, on ne sait pas très... Voilà, à définir, à voir, à prolonger, et peut-être pas. Mais voilà, une forme de quelque chose qui me lie à l'Algérie sans que je sache exactement pourquoi, tout en ayant quand même des petites idées. Donc ça, c'est au départ. Ensuite, il y a Marseille. Il y a travailler à Marseille, et travaillant à Marseille, ben, on a envie d'aller à Alger. Travailler 2 mois à Marseille en 2016. 2016, on est après et on est en quand je suis à Marseille, c'est au moment de l'attentat de Nice. C'est à ce moment-là précisément. On est après d'autres attentats. Et donc, on est en pleine folie du voile, etc. On se souvient, enfin, on n'en est pas sorti. Mais enfin, là, à ce moment-là, on y est vraiment, vraiment dedans. Et du coup, le rapport aussi avec, cette autre rive, une autre... Bon, voilà. Du coup, c'est tout ça. Le château d'If, pour moi, c'est évidemment le Comte de Monte Cristo, pour plein de raisons. Mais pour plein de raisons. C'est parce que j'adore ce roman. C'est peut-être pas une très bonne raison, mais c'est une raison quand même. Oui, c'est l'enfance, pour moi, ce roman, mais pas que l'enfance, aussi l'adolescence. Et aussi parce que Edmond Dantès, qui change de nom et qui devient le Comte de Monte Cristo, c'est vraiment celui qui s'échappe de tout et de même d'endroits dont on ne peut pas s'échapper, puisque c'est une île et à l'intérieur de cette île, une prison, un château. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'enfermement d'Edmond Dantès dans le château d'If. C'est impossible de sortir de là, c'est super compliqué. Il y a le curé dans la cellule d'à côté, il communique, enfin, c'est très très long et il ne va sortir de là que parce qu'il fait le mort. Que parce qu'il va mimer la mort et c'est comme ça qu'il va sortir de la Méditerranée et qu'il deviendra quelqu'un d'autre, hein, le comte. Et ce comte, il a une seule idée, c'est de venger son père, et il va se venger sur... il va se venger sur les fils de ses ennemis, voilà. Et du coup, on a des fils dans cette histoire qui payent pour... La traîtrise de leur père, traîtrise intime, traîtrise politique, c'est au moment de Napoléon, etc. Et voilà. Et du coup, ça me semblait à la fois puis aussi pour moi, le Comte de Monte Cristo, c'est le plaisir même de la fiction. Enfin, c'est l'exemple même du plaisir que j'ai avec la fiction et avec le roman d'aventure. Et du coup, ça, c'était tout à la fois. C'était dire que ce texte-là, il s'ouvrait sur de la fiction, il s'ouvrait sur quelque chose qui n'était pas du tout de l'ordre des archives, du réel, introuvable, etc., etc. Voilà. Qu'à la fois, il tenait à l'enfance, mais on ne sait pas bien pourquoi, mais qu'est-ce qui ne tient pas à l'enfance, en fait ? Bon, mais quand même, il tient du côté de l'enfance. Et aussi, il tient du côté de la liberté, qu'on ne peut pas enfermer quelqu'un en prison, la preuve, hein. Edmond Dantès, il est sorti. Et Edmond Dantès, et ça je le raconte dans le texte, mais c'est vrai, je le raconte comme je l'ai vécu en écrivant, c'est que je me disais, mais c'est drôle, je ne me rappelle plus comment ça finit le Comte de Monte Cristo. Je me rappelais de plein de choses de ce livre avant de le relire, mais je ne me souvenais plus du tout de comment ça se termine et comment il meurt. Mais en fait, il ne meurt pas. À la fin, il ne meurt pas, il s'échappe encore. On le voit s'échapper sur un bateau encore, c'est à la fin. Du coup, je trouvais ça parfait comme... voilà. Et puis le château d'If. Hein. Et puis quand même, c'est fou parce qu'on parle du réel et des archives qu'on ne trouve pas ou qu'on trouve, mais quand on les trouve, c'est comme si on ne les avait pas trouvées. Enfin, il n'y avait pas grand-chose à trouver à l'intérieur. Et puis, quand même, dans ce château d'If, le vrai château d'If, celui qu'on peut visiter aujourd'hui si on va à Marseille, pendant très longtemps, et c'était le cas en 62, et c'était le cas même avant 62, si on visitait quelque chose du château d'If avant même qu'il soit un musée, officiellement musée, c'était la cellule d'Edmond Dantès. Ça veut dire qu'on visitait en vrai, dans le réel, la cellule d'un personnage de fiction. Donc c'est... voilà. Du coup, ça commence par Edmond Dantès, la fiction, le château d'If et mon rapport compliqué aux archives.
Merci. Merci de l'avoir fait. Et en vous écoutant... plusieurs choses m'apparaissaient ou me réapparaissaient et qui relient à tout un pan de votre travail. Je crois pas l'avoir dit, on l'a mis dans les biographies, mais c'est important de le redire, votre travail militant et d'écriture autour de l'accueil, des solidarités et de ceux qu'on nomme les migrants. Donc vous le faites de façon militante depuis des années, vous en avez témoigner de façon différente dans plusieurs livres, parce que ce qui commence, enfin, la vie de Mohamed Belaouel, c'est d'abord une migration contrainte aussi, voilà. Et puis la possibilité poétique et métaphorique là-dedans, et c'est là où Dantès, et ce que vous en disiez là est intéressant, est métamorphique. Enfin, c'est se métamorphoser, changer de nom, changer d'identité, qu'une identité, c'est fluctuant. Et que là, ça constitue, via la fiction, une forme d'espoir aussi, depuis ce statut-là au départ. Parce que Bellawell aussi change de nom, et puis du coup, on a du mal à retrouver sa trace. Or, il se trouve que vous avez par ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, traduit Ovide et les métamorphoses. Et donc, en ce sens-là, ça me semble résonner énormément avec, évidemment, d'autres pans de votre travail auxquels vous ne faites que discrètement allusion, parfois, dans le texte, mais qui, du coup, me semble tout autour.
Je sais pas comment je peux faire du lien avec If et puis c'est ça et le travail.
Il me semble que du coup ça le poétiquement, métaphoriquement, ouais. ça le réitère en fait ou ça le transcende.
Alors une anecdote pour les histoires de nom, parce que là son nom à lui c'est pas tant qu'il est changé, c'est pas tellement qu'il change de nom, c'est qu'il est coupé à l'intérieur, c'est qu'un morceau est enlevé pour en faire un nom français. Alors après, puisque j'ai fait une enquête quand même, parce que j'ai dit que j'ai rien trouvé, mais j'ai trouvé des petites choses. Notamment, j'ai trouvé que au moment de son mariage avec Noémie Sandra, qui est en 53, je crois, à Alger, là, pour le coup, le mariage, hein, même j'ai pas réussi à avoir l'extrait de mariage, mais quand même, je sais qu'il s'est marié en 53 à Alger. Il a essayé de changer de nom à ce moment-là déjà. Alors à un moment, on est en 53, on est avant 54, on est avant. Ben, et voilà, et simplement, c'est donc une quête d'ascension sociale, on va dire, et de sortir d'une condition pour ce qu'on sait, pour vivre autrement, mieux. Enfin voilà. Et il a essayé quel nom il a essayé de prendre à ce moment-là. Ça, j'ai trouvé ça aux archives. C'est le nom de Fiorentino. C'est pour ça que ce nom, on se dit, ah tiens, peut-être qu'il a quelque chose à voir dans l'histoire. Donc il essaie de choisir, il tente de changer de nom, de prendre un nom italien pour épouser une espagnole. Donc ça déjà, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans l'histoire. Il y a une multiplicité déjà là. Voilà. Et ça marche pas. C'est lettre morte, en fait. Quand on voit ça, on voit que c'est classé aux archives. C'est sa demande hein, de changement en 53. Mais c'est classé. Ça n'a donné lieu à rien de plus. Donc, après, en 62, il arrive en France, en effet, et deux ans plus tard, en 64, il recommence, et là, il dit que son nom, parce que c'est le nom, c'est par décret, lui porte préjudice, donc ça, je trouve ça aux archives aussi, lui porte préjudice dans son boulot, et que donc, il demande à en changer. Et là, il ressort pas du tout l'argument Fiorentino, c'est pour ça qu'on sait pas du tout si c'est vraiment vrai, si c'est un rapport avec lui, Fiorentino, si c'est sa mère ou pas, on n'en sait rien, on n'en saura jamais rien, personne ne saura. Étant donné que les archives de Annaba Bonne, où il est né, ne le connaissent pas, donc on ne sait pas. Et donc là, il donne ça comme argument, il dit qu'il est catholique, mais il ne produit pas non plus, puisqu'il dit qu'il est catholique, il faudrait qu'à un moment donné, il se soit converti. Il faudrait à un moment donné qu'il ait été baptisé. Or, s'il a été baptisé, il a un prénom de baptême. Alors, pourquoi il dit qu'il s'appelle Mohamed ? Enfin, ça ne va pas du tout, son histoire. Ça ne marche pas. Du coup, il dit qu'il est catholique et que son nom lui cause préjudice dans son métier. Et là, il demande à ce qu'il soit coupé. Et c'est à ça que je voulais en venir. Couper un nom, ce n'est pas tout à fait en changer. C'est quand même le couper. Et ce qui reste du nom d'avant devient indicible. Parce que même au sens propre, en fait... Les enfants, par exemple, qu'il a, ne savaient pas s'ils le savaient, ou ne savent pas maintenant qu'ils savent le prononcer, ne serait-ce que ça, parce que ils sont complètement coupés aussi de leur pays. Et ce que tu disais par rapport à la migration, oui, c'est une migration contrainte, mais c'est une migration contrainte dans laquelle on peut même pas aimer son pays d'avant. On est privé, on est coupé aussi de l'amour d'avant, parce que quand même on l'a trahi, ce pays d'avant. En tout cas, c'est oui, on l'a trahi, objectivement. Et en tout cas, on n'a pas fait le choix de ce pays-là. Il a fait le choix d'une lutte, d'une ascension sociale au moment où il s'est complètement planté. Il fallait faire le choix d'une ascension ou d'une lutte nationale, en fait. Et lui, à ce moment-là, 54, paf, il fait le choix de sortir de sa situation sociale. Il ne fait pas du tout le choix de son pays. Du coup, il ne peut même pas être un exilé. Donc, c'est une migration contrainte sans le bénéfice de la tristesse, quoi, et du chagrin de l'exil. Hein? Donc, après, je ne sais pas ce que ça fabrique. Quand on est empêché de chagrin, ça fabrique autre chose. Mais je ne sais pas quoi. Enfin, c'est une autre histoire.
Vous voulez nous lire un autre extrait? On s'était dit qu'on cheminerait.
Hein? Lequel?
Je vous laisse choisir. Celui qui vient, celui qui se présente, parce que vous en avez plusieurs possibles. Et je ne voudrais pas l'imposer tel un maître d'école.
Sur le nom, alors. Sur le nom. Je commence à un moment où on voit l'année 2016, un tout petit peu de l'année 2016, et après c'est sur Mohamed Belaouel. Août 2016, plage des Catalans, tout près de l'endroit où Edmond Dantès, au début de ses aventures, rencontrait Mercedes, avant la ruse et l'emprisonnement au château d'If. Un petit groupe de personnes commente l'été. Un jeune couple à côté se regarde, gêné. La conversation est passée du vêtement de bain au voile, du voile au danger, du danger informe au terrorisme, du terrorisme retour aux femmes, au voile, burqa et burkini, etc. Excusez-moi, messieurs, dames, avec tout mon respect, a interrompu ce jeune homme qui entendait malgré lui les propos. Excusez-moi, mais ce que vous dites nous blesse, ma femme et moi. Je cherche un nom d'Algérie. Je cherche un nom et père d'Algérie, le père de l'homme que je rencontrerai 20 ans après, qu'il devenait caillou sur le quai de la Joliette. Le nom introuvable est copié au dos d'une photo. Il y a longtemps, j'ai ouvert la valise aux photos, dans le garage de la maison où nous vivions, puis la valise aux photos a disparu. Je cherche un nom déformé, sans doute les enfants du bateau le connaissaient-ils, mais qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire, en quête d'un nom qui n'est pas le mien et qui, s'il n'est pas introuvable, est imprononçable. Pas une bouche chez nous pour le prononcer correctement si je le trouve. Déformé, après l'été 1962. Quelle honte à l'école si on ne répondait pas au nom français. Le prénom du père sur le livret de famille du fils, c'est Jean. Je ne sais rien de ce que pense et vit Jean du livret, père des 5 enfants. Tu travailles, paie pour un toit, nourrit tes gosses, aime une femme, fait tout un tas d'autres choses. Souvent t'émerveilles et on ne saura jamais à quoi tu penses. Enfant d'Algérien comme on ne disait pas, mari d'Espagnol, de statut civil commun, vivant, peut-être, sur les hauteurs d'El Bihar. Tu es furieux après la Joliette, furieux si on te cherche une histoire. Comme toi, tes gosses sont furieux si on leur cherche une histoire. Tu as laissé faire l'histoire, tu n'es pas le seul à vanter le sens de l'histoire. Tu as laissé faire et l'histoire ne te fiche pas la paix. Tu ne voulais rien penser de ça, rien penser comme ça. Tu voulais te sauver, libre, à peu près, ne ménageant pas ta peine et debout sur la crête, primo le bateau, deuxio le boulot, agent de la paix, nom de famille tronqué, blessé, à peine et silence. C'est mystérieux cette affaire d'engagement dans la Révolution, de non-engagement, cette affaire de survol des révolutions. Un pied sur la crête, une aile blessée. Jean, du livret de famille, tu as épousé Noémie Sindra, tu as eu 5 enfants, des espérances et des amertumes. Espérance et amertume, ferment leur gueule, ne préparent pas la rébellion, cherchent un boulot, des prénoms français, droit de cité, ce qu'elles peuvent, un bateau. Les enfants qu'on voit sur le bateau en 1962, puis sur le quai de la Joliette, à l'école répondront à un nom amputé. 50 ans plus tard, ils ne sauront pas prononcer le nom d'avant. Autour d'eux, personne ne le saura. Le boulot qu'a fait ce peu de choses qu'est un nom de père. Sous sa forme première, il a épousé une Espagnole, française donc, née sur la terre d'Algérie. S'est trouvé avec elle et les 5 enfants sur un bateau à un moment où on courait tous après les bateaux, sauvés, plus de nom et plus un mot. Mais en fait, c'est pas sur le bateau, hein, parce que ça, c'est au début, et c'est ce que je croyais, mais après, voilà. C'était...
Il est question de l'histoire, et il est question de l'histoire de multiples façons. D'ailleurs, il en est question au début, et ça, c'est un des, des premiers trompe-l'œil du livre, moi, le démarrant, j'ai cru que ça allait être une biographie d'un personnage historique, de Georges Bidault, quand j'ai lu les premières pages. Georges Bidault, combat Maurras, action française, etc. Il y a quelques portraits historiques comme ça, pas forcément tous, mais qui me semblent être, en tout cas assez majoritairement, ceux de tueurs ou de types du côté de la force. Qu'il s'agisse d'un tueur du FLN, qu'il s'agisse de Bidault du côté de l'OAS, qu'il s'agisse du préfet dont le nom m'échappe. Voilà. Et ça dit quelque chose aussi, mais alors pareil, discrètement, mais ça dit quand même quelque chose de votre rapport au monde et de votre rapport à la domination. À la domination française en Algérie, pour exemple, mais peut-être au-delà encore. C'est-à-dire que l'histoire, celle avec un grand H, hein, de la phrase de tout à l'heure, ou avec sa grande H, l'histoire, c'est ici celle des dominants tortionnaires. C'est eux qui ont le grand H.
Je sais pas si... alors, j'imagine que là, ce que tu dis, c'est qu'il y aurait les salauds, en fait. Ceux dont on sait que...
J'ai pas voulu dire ce terme-là, oui, parce que je voulais dire qu'ils étaient du côté tueurs. De la force et oppresseurs tueurs. Indéniablement, ouais. C'est objectif salaud, ouais. C'est moral. Et tu dis bien aussi que, de toute façon, c'est des itinéraires complexes, c'est des itinéraires stratégiques, politiques, des reversions au fil du siècle. Donc le terme salaud, voilà, il n'est pas forcément discutable. C'est pas celui que je voulais utiliser. Je voulais être plus objectif que ça. C'est-à-dire que du côté de l'histoire, avec un grand H, sont des tueurs et des dominants. Et du côté de l'histoire, avec un petit H, celle qui essaie de se tramer à l'intérieur de tout ça, c'est des gens qui se débrouillent comme ils peuvent. Enfin, à l'exemple de Belaouel, quoi, dans tout ça.
Peut-être que je pourrais repartir du petit passage sur le préfet Achiari, parce que le préfet Achiari, il est connu comme un effet. C'est lui dont on parle en disant le boucher de Guelma, le boucher. Donc c'est en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, et quand les gens reviennent chez eux et qui se sont beaucoup battus pour une autre libération. Et du coup, il y a des manifestations à Sétif, à Guelma, avec le drapeau algérien. Et lui, il fait tirer le préfet Achiari, qui est à ce moment-là préfet autour de Constantine. Il fait tirer sur le drapeau algérien, ce qui va provoquer une émeute et puis une immense répression avec des milliers de morts, etc. Et il est alors j'ai repris son histoire parce que pour des raisons il y a tout un tas de fils après qui échappent complètement à l'histoire. C'est que Achiari, c'est un nom basque, vous entendez, et que après, voilà, il est assez connu au Pays basque, et c'était intéressant de faire le lien entre ces histoires, même si c'est pas du tout ce que je fais. Enfin, je le pousse pas très loin, mais c'est quand même en 61. Donc, en pleine guerre d'Algérie, qu'il y a des pays, dont le Pays basque, ou des régions en tout cas, qui se disent « mais nous aussi, on veut une indépendance ». Mais c'est des gens qui sont allés en Algérie, en effet, et qui sont revenus. Et du coup, lui, là, le tueur de l'histoire, le boucher de Guelma, en tout cas, il n'a pas fait ce chemin-là, lui, en fait. Et donc, je m'étais un petit peu approchée de ce personnage parce que j'ai été étonnée de voir comment il était encore très présent dans les imaginaires, voilà.
Peut-être, vous voulez nous le lire ?
Bonjour, madame.
Ah !
Oui ?
Maintenant ou après ?
Excusez-moi, monsieur. Oui.
Non, il n'y a pas...
On ne va pas parler de poésie. Marie va lire son texte. Je considère, et l'équipe du festival aussi, que son texte... Oui. Nous allons parler de ce livre et Marie va en lire ce qui, dans les faits, est un geste poétique.
Vous êtes basque, madame ? Madame, vous êtes basque ?
C'est le moment des questions ou c'est après ?
Pas
qu'est-ce
vraiment,
qu'on fait ?
Si on pouvait continuer à parler, ouais.
Je vous lis, je vais...
Merci, monsieur. Non, mais il y aura des questions et des dédicaces, mais effectivement, si on peut continuer, c'est pas plus mal.
Mais monsieur, je parle à la langue française avec
quoi ? J'espère, moi aussi. Et vous pourrez vous adresser tout à l'heure, mais si on peut finir notre temps de débat, ce sera tout aussi agréable pour les autres. Merci, monsieur.
C'est pas du tout poétique. Alors, 1942, 1945, 1956, se succèdent les faits d'armes du sous-préfet André Achiari. Il sera décoré de la Légion d'honneur pour les tout premiers. Oui, c'est ça, en fait. C'est quand même, il est décoré de la Légion d'honneur. Je crois que plus que de voir les tueurs, c'est de voir qu'en fait, ces tueurs-là, Achiari comme d'autres, ils n'ont pas été que tueurs dans l'histoire. Ils ont été aussi autre chose, en l'occurrence résistants pour lui ou comme pour d'autres. Voilà. Ex-résistant, il est en Algérie commissaire de police puis sous-préfet. L'attentat de la rue de Thèbes qui fera dans la Casbah 80 victimes, c'est lui. Ou l'organisation de la résistance de l'Algérie française et ses commandos contre-terroristes, c'est lui. En 1945, la sanglante répression de Guelma, c'est lui. Disons qu'il a peut-être eu des idées, elles se sont crispées. Disons que les actes, on peut compter. Le boucher de Guelma. Comment tellement peu faire cas des corps, tellement peu faire cas des actes sur les corps. Les conséquences, les capacités nouvelles que ça déploie en soi, mais on ne le sait pas. On devient celui qui a fait et celui qui peut faire encore. Qu'une idée de départ au nom de laquelle les actes comptaient peu, et ce pouvoir de transformation, on ne le sait pas. On fait le vide, on a le temps devant soi. C'est impropre de le dire ainsi quand il s'agit du boucher de Guelma, mais on est, en quelque sorte, immortel. On a le temps devant soi, on attend la rédemption, croyant ou non croyant. Tout est vrai, c'est-à-dire tout est en construction. On te ferait une foi avec des briques et des brocs et des gloires à la petite semaine et des crimes à tire-larigot. On n'a pas le temps et on a tout le temps, les deux. On a tout le temps. La fin justifie les moyens, l'idée est puissante, qui nous guide depuis le début. Et on n'a pas le temps. On doit agir, empêcher la révolte de Guelma. Peut-être on a appris que Sétif bougeait. Peut-être la peur qu'on a est irrationnelle. Peut-être au fond on a raison d'avoir peur parce qu'on est allé très loin, trop loin et on le sait. On sait que ce n'est pas possible de durer, qu'on est à un point de non-retour. S'il y a, etc. Bon, voilà. Sur ce qui fait que cet ex-résistant qui a fait des actions... Eh bien, à un moment donné, il n'y a même plus la conséquence de l'action, quoi. C'est une chose de... Bon, voilà, c'est essayer de rentrer dans un peu ce que ça fait de devenir un tueur.
Et l'histoire fait signe. Et l'histoire fait signe aussi de façon... dans l'autre sens, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous avez évoqué l'été du Burkini, l'affaire du voile. Et le livre nous rappelle fort opportunément qu'une affaire du voile, il y en a eu une... au moins une précédente, et nous la rappelons qu'il y en a eu d'antécédentes encore en Algérie en 58 notamment, et ce trajet là qu'on fait vers l'histoire me semble aussi un des intérêts du livre, c'est-à-dire on va dans l'histoire antécédente, celle avec un grand H, dans des événements d'avant qui nous font signe.
Oui, là aussi hein, c'est Ça, c'est quand j'étais à Marseille. En juillet 1958, un article publié dans le New York Times est intitulé « La bataille du voile ». C'est une nouvelle bataille engagée par le gouvernement français contre le FLN. En réalité, ce n'est pas une bataille si nouvelle que ça. Le général Daumas a joué un rôle important dans l'organisation coloniale sous le Second Empire. Il écrivait vouloir déchirer le voile qui couvre les mœurs, les coutumes et les idées de ce peuple à soumettre. Le voile est un fétiche qu'on veut arracher tant on est en colère contre les fétiches et tant on est en colère contre soi quand on est excité par les fétiches, etc. Du coup, oui, c'était remettre cette affaire 2016 du burkini, voile, etc. en regard avec ces autres affaires du voile.
Et alors, du coup, on en parlait tout à l'heure. À quel moment l'Algérie de maintenant fait signe ? Alors, c'est très discrètement dans le livre. C'est pour ça que j'ai eu du mal à retrouver. Je sais que c'est de l'ordre de l'allusion. Mais au moment de la fin de son écriture, la révolution qui court depuis l'année dernière a déjà commencé. Et donc, forcément, elle fait signe de façon sous-jacente, au moins pendant le chantier. comment ça agit sur vous et sur le texte, ça, ouais. Ce qui se passe en Algérie depuis un peu plus d'un an.
Ouais. Alors, d'ailleurs, aujourd'hui, on est vendredi, hein. On est vendredi, donc c'est le jour où les Algériens marchent. Voilà. C'est en ce moment même, d'ailleurs, peut-être que. Et donc, la première fois quand j'y suis allée, plusieurs personnes avaient dit, mais en réalité, il y a une énergie, et c'est vrai qu'on sentait bien, il y a une énergie qui fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sent bien que tout est possible, en fait, qu'il peut se... Et donc, 22 février 2019, les gens sortent et sont toujours un an après, après avoir gagné tout un tas de choses. Plein d'autres restent à gagner, mais après avoir gagné vraiment, vraiment beaucoup de choses et aussi beaucoup de répression qui se voit pas tellement, mais qui est très présente, notamment dans des emprisonnements. Et il y a beaucoup de gens en prison et beaucoup de prisonniers politiques en Algérie en ce moment. Mais ça continue, c'est un mouvement pacifique qui continue à se maintenir pacifique. Alors comment ça arrive dans le texte? Bon, le 22 février, c'était sur mes écrans, en fait, par voie d'écran, que je suivais le déroulement. Et puis, après, j'ai beaucoup écrit là-dessus, en y allant. Mais ça a été retiré du livre après. Parce qu'en fait, on dit que tu disais que j'écris en constellation, mais c'est vrai, mais c'est surtout que j'enlève beaucoup. J'écris, et après j'enlève. Et donc, tout ce qui concernait le mouvement en cours, j'en ai vraiment beaucoup retiré, parce que pour le coup, déjà, c'est une écriture... qui cherche son personnage, là. C'est pas évident de le trouver au milieu. Alors, en plus, s'il y avait 2019 qui s'introduisait dans le texte vraiment à la hauteur de ce que c'est 2019 et 2020 en Algérie, alors là, c'est un autre livre, en fait. On repartait pour... Enfin, on le publiait pas, quoi. On attendait. On le publiait plus tard. Peut-être, hein, mais...
Et du coup, pour en revenir à cette histoire de poétique et d'enquête... En quoi l'enquête constitue un fait littéraire, alors qu'on va creuser au long de ce week-end. Il y a une rencontre avec Hélène Godille et Laurent Demanze à ce sujet dimanche, en quoi l'enquête et Demanze a fait tout un magnifique essai là-dessus, sur le romancier comme enquêteur à l'heure actuelle. Et j'ai trouvé que le livre, à cet endroit-là, le métaphorisait complètement. Au moment où vous arpentez vos notes, de la même manière qu'il y a des moments de déception aux archives, je me rappelle d'un moment où vous dites aussi « Ah, flûte, j'ai pas pris... Où sont mes notes? Je n'ai pas pris de notes, j'ai oublié de prendre de notes. » Et vous sélectionnez des extraits de ce qui est infructueux aussi, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, vous faites des coupes. Mais dans ce que vous coupez, vous choisissez, alors à la fois par honnêteté et par esthétique, de garder aussi des choses qui sont... sur cette feuille-là, il y a des petits carrés, j'ai dû avoir une longue conversation au téléphone. Avec tout ce que l'enquête, donc, a d'erratique, pour constituer en soi aussi un objet poétique, voilà, que l'enquête constitue, un fait littéraire en lui-même, un objet esthétique.
Oui, c'est vrai. Mais en fait, par rapport à l'enquête, ça serait... par rapport à ce que je ne sais pas faire, notamment si je dis qu'en effet là sur mes notes je retrouve plus rien, parce que le truc le plus important qu'on m'a dit justement à ce moment-là je l'ai pas noté, je le retrouve pas. Ou c'est un peu de la même manière que lorsque je vais chercher la tombe de Mohamed Belaouel, on m'explique où il est enterré et que je me retrouve en suivant les indications à la lettre qu'on me donne au cimetière juif, ça colle pas du tout. Du coup, la seule chose qu'on pouvait se dire, c'est que je m'étais trompée. Parce que sinon, ça a donné du réel, au réel en tout cas, et à ce personnage, une autre épaisseur encore. Et là, ça repartait pour un tour de complexité et de presque impossible tenue, en fait, dans le réel. Donc c'est un peu du même ordre, en fait, de la même manière, et c'est pas du tout dans ce livre-là, mais j'ai voulu essayer d'être un tout petit peu plus rationnel, un peu plus pragmatique et tout, et avoir quelque chose pour enregistrer les gens qui me parlent récemment. Soit je n'arrive pas à l'enclencher quand il faut, soit après je me rends compte que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Il n'y a plus rien sur l'enregistreur. Enfin, et je crois qu'au fond, bien sûr, je préfère comme ça, que ce soit erratique, parce que je me souviens. Parce que, alors, c'est complètement non scientifique comme genre d'enquête. C'est le contraire d'une vraie enquête, en fait. En fait, c'est le contraire d'une enquête scientifique. Parce que je ne me souviens que des choses qui m'ont marqué. Enfin, je vais raconter, je vais surinterpréter des choses. Par exemple, hier, j'ai fait un entretien que je voulais entretien. Je voulais vraiment un truc. C'était à Donosti, à Saint-Sébastien, au Pays Basque. Et c'était... j'ai pas réussi à enclencher l'enregistreur parce que ça allait couper la relation. Enfin... Pourtant, j'aurais pu me pencher dans le sac, j'aurais pu, mais j'étais plus là. Enfin, j'étais plus là de la même manière. J'aurais plus été là de la même manière avec la personne. Pas dans la même écoute, pas exactement dans la même écoute. Alors, je ne l'ai pas fait. Et je n'ai pas réussi. Je n'ai pas trouvé le moment où c'était bon de le faire. Et il y avait l'autre solution de dire, est-ce que je peux ? Mais alors là, pour le coup, ça coupait encore plus le débit de récit. Qui était un cadeau, qui était un récit incroyable et cadeau. Et alors, c'est très drôle, parce que c'était hier. Et ce dont je me souviens surtout, il m'a tout raconté, hein, toutes les étapes et tout ça, mais je me souviens d'un détail, et ça, c'est pas rien que je me souvienne de ça surtout, et qui est sans doute, si jamais j'écris quelque chose, ce que j'écrirais, à savoir que 12 fois, il a changé de nom, ce garçon, qui est jeune, hein, qui doit avoir 20 ans. 12 fois, il a 12 noms. Il a 12 noms. Parce qu'à chaque fois qu'il se métamorphosait, dit comme ça, sa mère lui donnait un autre nom. Elle lui donnait un nom en fonction de ce qu'il devenait. Alors, c'est quand même... Alors, je ne sais pas. Je me souviens surtout de ça. Plutôt que du boulot en Tunisie et des tentatives de passage à Lampedusa, etc. Je m'en souviens aussi. Mais je me souviens surtout des 12 noms. Je pense que ce n'est pas pour rien que je me souviens de ça. Parce que ça m'a vachement troublée. Et d'ailleurs, ça m'a tellement troublée que je lui ai dit... Je me suis dit, ça, je vais lui piquer, évidemment. Et je me suis dit, mais ça, peut-être que lui voudrait écrire ça. Et je lui ai dit, mais il faudrait écrire ces 12 noms successifs. Bon, je ne sais pas où ça en est. Je sais lui où il en est. Il n'est plus à Donosti.
Oui, il est rendu loin, c'est ça ?
Loin.
Et donc je le disais, c'est aussi un choix d'écriture et de mise en place. Alors c'est intéressant ce que vous avez dit sur le fait que du coup vous enlevez beaucoup, donc ce que vous gardez d'autant plus d'importance, y compris quand ce sont les retranscriptions des petits carrés qu'on fait au téléphone. Et j'ai pensé à ça dans ce processus-là, notamment d'intégration de la parole. Et je pense vraiment d'intégration de la parole de l'autre. Ce qui fait, hein, comme je le disais au début, qu'on est dans la même position, c'est-à-dire que par moment, on ne sait pas bien, il faut se reprendre, qui parle, parce que vous enlevez les signes dits diacritiques, etc. Et donc, il y a de la première personne qui pourrait être la vôtre. Mais c'est un témoignage qu'on est en train de vous faire, dont on ne sait pas forcément si c'est le fils ou le... Voilà. Et du coup, ça... je pose une question en rétropédalage, c'est-à-dire c'est comme une question qui viendrait avant la réponse que vous venez de me donner, mais je pense que c'est intéressant de le creuser, ça aussi. C'est-à-dire la première personne qui est importante, hein, la position d'enquêtrice, et le fait d'assumer cette appropriation-là de la parole de l'autre, à la fois pour la rendre et en même temps s'approprier, les deux à la fois.
Et ça pose un peu de problème hein, quand même de s'approprier la parole de l'autre. Mais en fait, je le fais quand même. Ah, voilà. Alors après, je crois, je me suis dit, à un moment donné, je pense que je me permets de le faire parce que ce que je donne à l'autre comme... parole, enfin comme mot, comme phrase, et aussi comme complexité intérieure, ça le fige pas. Donc, enfin j'espère, enfin je crois. Et donc, si moi je prends cette parole, ces paroles, histoire des 12 noms un jour, peut-être, et d'autres choses, je me sens bien sûr que. Mais j'ai l'impression que j'ai le droit, en fait. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça serait quelque chose qu'il faudrait... je ne sais pas. Je ne me sens pas coupable de ça, en fait. Voilà. Alors, j'ai quand même tendance à me sentir coupable, hein, souvent. Mais là, je ne me sens pas coupable de piquer des choses aux autres. Alors, pourquoi peut-être là, ma réponse très partielle est là et tout, c'est peut-être parce que c'est pas que leur parole. Quand je la prends, cette parole-là, c'est pas que la leur, c'est la parole aussi qui s'échange à un moment. C'est une parole qui est tout le temps circonstancielle, en fait. Elle est à ce moment-là, elle m'est adressée. J'y suis pas pour rien dans le fait qu'elle se livre, qu'elle se délivre à ce moment-là. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Et aussi, c'est la parole de quelqu'un, mais qui lui aussi peut être quelqu'un d'autre, etc., etc. Et qui a été, c'est une parole aussi qui a été dite par d'autres. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une multiplicité qui m'autorise. Maintenant, on peut
À le lire, hein, comme je le disais, le trouble, il est fondé par le fait que, du coup, on est un peu perdu, mais quelque part, ce contrat pas clair est clair. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une diversité de voix.
Moi, je parlais du point de vue moral, bon,
voilà. On est face à vous au milieu d'une polyphonie. On comprend bien que ça circule. Et du coup, me venait... parce qu'on arrive bientôt au temps. Il y a un autre livre paru cet automne qui permettrait, avec Mathieu Pot-Bonneville qui est là, je crois, qui permettrait de dire un mot aussi de tout ce travail militant que vous faites à côté, le lien qu'il entretient avec l'écriture. Et puis, en fait, le rapport, il est aussi là-dedans. C'est-à-dire la patte, votre conversation là-dedans, elle est très entremêlée. Vous choisissez de faire des choix dans des conversations que vous avez eues par courriel à propos de ces questions d'accueil. Et puis, alors on peut déterminer avec le genre des adjectifs ou des choses comme ça qui parle à quel moment, mais ça se mêle quand même pas mal. Ça se mêle et ça redit et ça redouble, je pense, là, ce petit passage, ça redouble des choses que vous étiez en train de dire sur peut-être les métamorphoses, la multiplicité et le sujet collectif. Il y a quelque chose qu'on peut faire suivre, c'est ce que tu dis de la singularité des histoires, qu'on se transmet, se fait passer. J'adore ça. Et je veux savoir qui les fait passer à qui, mais aussi toujours savoir qu'on ne s'y résume pas. Voilà, le flic ne représente pas le flic de Vintimille, etc., le représentant de la préfecture. Et donc c'est intéressant parce que c'était vraiment en papillonnant dans ce livre-là et en trouvant aussitôt un écho avec ce qui s'écrit différemment dans le livre a priori d'enquête fictionnelle. Donc c'est une entrée, hein, mais pour vous demander d'en dire un mot de celui-là aussi, puis peut-être à l'aune des différentes facettes de ce travail de femmes, de militantes et d'auteurs et qui sont tellement reliées.
Ben oui, ben on a commencé à... Étant donné qu'au Pays Basque, c'est une route qui est qui est très empruntée depuis 2 ans à peu près, dont on parle moins que d'autres routes, et tant mieux qu'on en parle moins, mais c'est encore aujourd'hui une route vraiment de grand passage. Et puis Paris, où on avait tous les deux une expérience d'accueil, un à Paris et moi à Bayonne, et on a commencé à réfléchir par écrit à ce qu'on faisait comment on parlait de ces expériences d'hospitalité, de comment on accueillait, comment on pouvait accueillir et comment on pouvait en parler. Voilà. Et c'est de la porte de la chapelle à la route des Pyrénées.
Merci Marie. Je crois qu'on a une heure, il nous reste donc quelques minutes pour des questions du public. Si d'aucuns ou d'aucunes ont quelque chose à demander ou à énoncer au sujet de ce livre-là et puis des autres livres de Marie Cosnet aussi, évidemment. Oui, monsieur, donc courtoisement, nous vous écoutons. Prenez le micro et posez et tentez de poser une question.
Madame,
ce serait...
Ma vraie comédienne n'a pas besoin de micro.
D'accord.
Très courtoisement, ce qui est bien noté, moi je m'exprime mal dans la langue de Molière, c'est également petit. Enquête historique et poétique.
Vous pouvez lire le livre.
Pourtant, madame, en tant que basque, vous devriez connaître. Le Pays basque est riche en poésie. Enfin, en poétesse et en poésie. On devrait pouvoir pas. On devrait même pouvoir dire un poème ici, ce soir, pour montrer ce que c'est que la poésie. Comment est mis en valeur un texte poétique.
Après les opinions, chacun. Moi, j'ai entendu de la poésie dans ce que nous a lu Marie, et notamment dans les passages historiques. Et on pourrait reprendre les phrases et regarder comment c'est spécifiquement écrit. Et évidemment, les époques, les moments et les genres de poésie, ça, on peut les discuter. Donc, c'est subjectivement que je vous réponds. Je considère, en mon nom propre, je pense aussi au nom de l'équipe du festival, que le traitement de l'histoire à la façon dont le fait Marie Cosnet est poétique. Évidemment, à cet endroit-là, ça m'engage subjectivement. Il peut y avoir débat aussi dans le public. Mais on vous a courtoisement écouté aussi, monsieur, et vous avez le droit à votre opinion, bien sûr. Merci, monsieur. Y a-t-il d'autres questions ? Ce n'est pas une obligation, je ne soumets pas à la question. Vous pouvez évidemment, puisqu'il y a une dédicace à l'issue, rencontrer Marie Cosnet directement pour parler avec elle aussi de la poésie de son texte ou pas, ou de tous autres aspects, ou du Pays Basque ou pas, ou de ce que vous voudrez bien. Merci beaucoup Marie. Vous avez compris que voilà, ce livre est à découvrir, plus il est à acheter, parce qu'encore une fois je fais la promotion, mais on a à cœur de soutenir aussi des travaux éditoriaux qui sont à la fois courageux et surtout valeureux en tout point, et donc il y a plusieurs jeunes ou dix petits éditeurs qu'on est très heureux d'avoir au programme de ce festival. Donc l'ogre est à suivre, et du coup c'est une question que je n'aurais pas posée, que vous pourrez lui poser à la table. Il est également question de l'ogre, d'un ogre dans le livre, un long moment. C'est un des autres des aspects du métamorphique Belawel. Merci beaucoup de votre attention. Bonne suite de festival. Le programme est là. Je sais que je questionne Éric Chauvier à 17h, mais il y a peut-être quelque chose à 16h, et là, j'ai un trou.
Il y a la playlist littéraire voilà, de l'Université Paris 8.
Du master de création. Merci beaucoup. Merci Marie, et donc vous pouvez retrouver à la table de dédicace.